Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission. Invité du jeudi, aujourd'hui nous accueillons Gilles Laporte, le goût des murs sauvages aux presses de la cité. On va le retrouver dans quelques instants. Voilà, Gilles, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue donc pour parler de votre dernier roman, Le goût des murs sauvages. Alors tout d'abord, on va vous présenter un petit peu. Vous êtes Vosgien au départ. Est-ce que vous êtes toujours dans les Vosges ?
Je suis toujours dans les Vosges, non seulement toujours dans les Vosges, mais je suis resté dans mon village natal. Ça fait 79 ans que je suis là où je suis né.
Ah là, c'est bien, hein, c'est...
C'est vrai que c'est un peu exceptionnel.
Oui. C'est plutôt rare, oui. Alors, vous êtes venu comment à l'écriture, vous ?
Je suis venu à l'écriture grâce à ma première maîtresse d'école, parce que je suis issu d'une famille d'ouvriers du textile dans les Vosges.
D'accord.
Et dans cette famille, comme dans la plupart des familles ouvrières et paysannes, il n'y avait pas de livres. Or, ma première maîtresse d'école était tellement passionnée par son métier qu'elle m'a transmis son amour de la langue, que j'ai décroché grâce à elle le prix de lecture au cours élémentaire première année, et que j'ai reçu mon premier livre à l'âge de 6 ans, qui était le Don Quichotte de Cervantes. Et là est née ma passion pour la langue et pour l'écriture.
Sinon, votre métier, c'était quoi ?
J'ai toujours été enseignant, soit dans l'éducation nationale, les lettres, soit dans l'industrie ou l'agriculture, à des postes de patron de la formation.
D'accord. Voilà, donc on comprend peut-être un peu plus aussi votre goût pour l'écriture.
Oui.
Alors, bon, c'est vrai que vous avez écrit pas mal de romans. Hein. Vous en êtes à votre combien, là ?
J'en sais rien, je ne compte plus parce qu'ils sont tellement nombreux, et si on y ajoute les films pour la télévision, le théâtre et bien d'autres choses encore, je dois approcher la centaine.
Ah oui, quand même, donc en plus vous écrivez pour le théâtre.
J'ai écrit pour le théâtre, j'ai beaucoup écrit pour la télévision, une dizaine de films, dont deux dramatiques nationales, et c'est tout ça fait que la littérature, l'écriture dramatique m'ont toujours occupé, oui.
Oui, ben c'est une vie bien remplie, hein, pour le moment.
Je le crois.
Alors bon, ce département des Vosges, hein, qui ressemble un petit peu au nôtre, qui est très froid quand même, il y a de la neige encore, je pense.
Il y en a encore un peu sur les sommets, mais l'ancienne est encore un tout petit peu là, mais la nouvelle est arrivée déjà.
D'accord, d'accord.
Alors, notamment sur le massif du Honnec, elle est tombée là, il y a quelques jours.
Ah oui, qui est à combien d'altitude ?
Oh, 1300 mètres.
Ah oui, ça allait de bonne heure quand même là. Hein.
Oui.
Elle est arrivée très tôt. Alors, le goût des murs sauvages, on va parler de quelqu'un qui rejoint un petit peu votre vie, hein, puisque c'est Loane, hein, qui est dans votre roman. Elle aime la danse, hein, voilà, où le rêve c'est de danser. Elle est place Stanislas à Nancy, mais bien sûr, dans la vie, c'est vrai qu'on dit que la vie est faite de rencontres. Eh bien, le regard d'un bel inconnu qui s'appelle Fred, et quelques mots glanés de sa conversation vont tout changer. Et en 1975, c'est là que vont commencer cette aventure, puisque, contre l'avis de son père, qui veut en faire une notaire, Loane épouse Fred et elle travaille à la ferme. Alors là, ça va se compliquer, je pense.
Ça va se compliquer, oui, parce qu'elle va, elle va devoir faire un grand écart. Pour une danseuse, me direz-vous, ça n'est pas si compliqué que ça. Mais tout de même, entre la danse classique, elle était très très douée, elle était prise du conservatoire, et la conduite du tracteur et l'activité paysanne, c'est tout de même, ce sont deux planètes différentes. Et elle va avoir beaucoup de difficultés, elle va à passer d'un monde à l'autre. Des difficultés qu'elle va surmonter de toute façon, puisqu'elle est très courageuse, déterminée, et qu'elle a décidé qu'elle ferait de sa vie ce qu'elle a décidé d'en faire, et non pas ce que les autres voudraient qu'elle en fasse.
Comme quoi, l'amour peut faire basculer une vie.
Ah oui, bien sûr, mais c'est le maître mot de toute existence, je crois. Je n'invente rien, je fais simplement le constat. Et chez cette femme, chez cette Loane, qui est une bretonne d'origine, j'aime passionnément la Bretagne et je voulais que mon histoire prenne ses racines en Bretagne, dans le Finistère Nord, notamment une région, la côte sauvage, entre Saint-Paul-de-Léon et Brest, qui est magnifique et qui permet, très favorable à la méditation et à la danse d'ailleurs. Donc cette histoire, cette jeune femme qui vient de Bretagne va incarner tout ce que je voudrais, tout ce que je vois qu'incarne une femme habituellement, c'est-à-dire ce courage, cette détermination, ce regard sur le monde fait de bienveillance et d'ouverture d'esprit et je vais dire aussi d'élévation spirituelle. Tout ça va être dans ce personnage de Loane qui va, à sa manière, accompagner les hommes qui sont autour d'elle et les aider à grandir.
Oui, alors parce qu'il faut dire qu'elle travaille à la ferme, mais quand même, elle enseigne la danse dans la ville, ce qui est complètement atypique.
Ben, elle n'a pas voulu renoncer à sa passion première. Oui, elle pratique toujours la danse. Elle a même ouvert un petit cours de danse, un studio dans la ville voisine. Et elle y est quasiment tous les jours avec ses élèves, ses disciples. Et quand elle quitte la barre de danse classique dans son studio, c'est pour aller empoigner le volant du tracteur sur l'exploitation agricole.
Alors, tout allait bien dans cette famille qui s'agrandit. Et puis, comme dans la vie, il y a des fois des choses qui vont changer le destin, et c'est ce qui lui arrive.
Ben oui, un drame va survenir, qui va tout remettre en question. Elle va se retrouver seule, à la tête d'une grande ferme, d'une belle exploitation céréalière et d'élevage, avec la question suivante, que faire ? Est-ce que je la reprends seule, ou est-ce que je vends tout et je vais me consacrer à ma passion première et exclusive qui était la danse. La question se pose, elle va pas hésiter très longtemps, elle va très vite décider de reprendre cette exploitation envers et contre tous. Je dis bien envers et contre tous, puisque tout le monde va se liguer contre elle, aussi bien les paysans voisins qui vont vouloir récupérer toutes les terres, l'occasion est trop belle pour eux de récupérer une 150aine d'hectares à peu près, facilement. Et puis l'administration qui dit, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, une danseuse paysanne, ça ne s'est jamais vu, ça ne se verra jamais, donc pas question. Donc voilà, elle va devoir lutter contre cet environnement-là, qui lui est hostile, et elle va réussir.
Oui, alors c'est vrai qu'on connaît un peu ce monde agricole, puisque nous on est en milieu rural, on voit bien, même toujours ça continue, dès qu'il y a un agriculteur qui arrête, eh bien, les autres se précipitent pour avoir les terrains, hein, parce qu'ils ont toujours besoin de plus de terrain.
Oui.
Et alors bon, alors pour une femme, oui, danseuse qui est dans un monde rural où on sait que c'est très difficile, elle va avoir quand même du caractère parce que déjà elle avait décidé de faire ce qu'elle voulait, et là, eh bien, elle va continuer à faire voir que elle peut diriger cette ferme, même si il va y avoir de gros soucis puisqu'il y en a beaucoup qui vont l'embêter.
Oui, elle va réussir à reprendre en main toute cette affaire qu'elle avait engagée dans une voie d'ailleurs de conversion technique, puisque elle tournait le dos à l'agriculture intensive avec utilisation d'intrants, de pesticides et autres, et elle a décidé d'aller vers une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement, de la nature en général, de la vie. Respectueuse de la vie. Elle l'est dans sa vie propre et elle veut l'être aussi dans son engagement économique. Donc elle va s'engager dans cette voie-là tout en maintenant une main sur la barre de son studio de danse, hein, parce qu'elle a toujours cette passion-là. Elle va mener ces combats-là conjointement et avec le même moteur permanent qui est celui de l'amour. L'amour, un, de son métier, de l'amour de la danse, sa passion de toujours, et trois, l'amour des autres, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et quoi qu'ils fassent. Et elle va être une sorte de catalyseur, au point que, alors qu'elle n'est pas candidate, elle va être élue conseillère municipale dans son petit village, et que, alors qu'elle n'est pas candidate, quelques mois après son élection au conseil municipal, elle est élue maire, première maire la plus jeune de France, première femme jeune maire de France. C'est étonnant. Et cette histoire s'inspire d'une vie réelle de femme que j'ai très bien connue et qui elle-même est devenue la première femme jeune maire de France.
C'est ce qui vous a inspiré alors ?
C'est ce qui m'a inspiré. C'était une amie très proche qui m'a toujours ébloui par son courage, par sa détermination, par sa bienveillance, par son regard sur le monde et sur les autres. Et je m'étais promis de m'inspirer de sa vie à elle pour montrer par le roman que quand un être humain le veut, il peut, et surtout quand une femme veut, elle peut. Elle peut devenir un guide, non seulement pour les autres femmes, mais aussi peut-être surtout pour les hommes.
Oui, alors bon, c'est en plus, on sait que dans la zone rurale, bon, maintenant, ça s'est un peu arrangé, mais une femme à la tête d'une petite commune, c'était pas courant quand même. Hein.
C'était pas courant. Là encore, elle a déclenché des réactions qui étaient, sinon hostiles, en tout cas de méfiance de la part d'autres élus, et pas seulement d'autres élus de son conseil municipal, mais d'autres élus au niveau départemental, au niveau régional, parce que dans toutes ces instances, qu'est-ce que c'est que cette fille qui vient nous donner des leçons alors que elle n'est sortie d'aucune école administrative et qu'elle est paysanne et danseuse. Donc dans tous les milieux, on se méfiait d'elle, et dans tous les milieux, elle a réussi à insuffler son énergie et son amour des autres de la vie.
Oui, alors c'est vrai que, bien sûr, ça paraît un peu étrange quand même, même quand on voit ça, être danseuse et être à la tête d'une ferme, être maire en plus, on comprend bien que ça ne doit pas faire plaisir à tout le monde. Et puis vous situez votre action en 1975, alors quand on parle là, on en est au début de ce qu'on appelle maintenant le bio, mais qui est l'ancienne agriculture, on va dire. Et là aussi, ça doit être compliqué de ne pas aller dans le sens des grandes fermes, quoi.
Mais oui, oui, la tendance générale de ce moment, c'est suite au remembrement, au regroupement des exploitations, bref, elle est dans ce mouvement de l'intensification de l'agriculture, de la mécanisation à outrance, de l'utilisation de la chimie à outrance aussi pour améliorer les rendements, et elle va contester tout cela de manière positive, en montrant que l'on peut faire autrement, que l'on peut travailler autrement, que l'on peut, lorsqu'elle s'adresse à ses collègues paysans et qu'ils lui disent bon, enfin tu vas à l'échec parce que si tu n'utilises pas les pesticides, si tu n'utilises pas les engrais, tes rendements vont se casser la figure, et elle répond non, je suis sûr qu'on peut faire autrement et qu'on peut obtenir des rendements tout aussi importants que les vôtres, et elle va le prouver. Elle va par exemple se passer du labour. Elle va simplement griffer la terre pour faire en sorte de respecter toute la biodiversité qui se trouve dans la terre. Et elle va obtenir, par ces méthodes-là, des rendements qui sont nettement supérieurs, bien souvent, à ceux de l'agriculture intensive. Oui, elle devient un modèle aussi, de cette manière-là, un modèle de femme, un modèle d'élu et un modèle de paysanne, en même temps qu'un modèle de danseuse, parce qu'elle a toujours, j'insiste, cette activité,
oui, bien sûr.
Elle organise des spectacles.
Alors bon, aujourd'hui, on est en compagnie de Gilles Laporte, qui nous parle de son dernier roman, « Le goût des murs sauvages » aux Presses de la Cité. Alors oui, cette danseuse, d'ailleurs, la photo de première page est très belle, hein, on voit, elle est au milieu des blés, elle a une posture de danseuse, hein, déjà, hein, on le voit ça. Ah ben, moi, c'est ce qui je retranscris, en fait.
Une posture de danseuse, visage tourné vers la lumière, visage
voilà.
Inondé de lumière.
Oui, et au milieu des blés, hein, puisqu'elle est dans cette ferme. Alors bon, on ne va pas déflorer la fin du roman, bien sûr, mais on a compris que c'est une femme qui a du caractère. Quand elle veut quelque chose, elle l'aura, et qu'elle soit danseuse et agricultrice, elle va pouvoir mener les deux de front.
Et puis aussi, elle est fidèle à l'esprit de son mari, parce qu'ils avaient acheté un domaine qui est une ancienne commanderie de Templiers. Domaine sur lequel se trouve la chapelle de Templiers, qui est très abîmée, qui est presque en ruine, et que lui voulait absolument restaurer. et elle va, elle, reprendre à son compte ce projet de son mari. Elle va se battre pour faire en sorte que ce patrimoine précieux, historique, important, soit sauvé. Alors, je ne dis pas si elle y arrivera, mais c'est toute la fin du roman qui est imprégnée de cette lutte pour le patrimoine, en même temps que pour la danse et pour l'agriculture respectueuse de l'environnement. C'est un combat permanent, cette femme. Un combat pacifique, un combat respectueux de tous et de tout, un combat pour la vie.
Ben oui, puisqu'on verra, la fin du livre dévoilera tout cela, si elle arrive à tout mener de front, en fait, hein, parce que ça fait beaucoup de choses quand même pour une jeune femme.
Hein. Oui, ça fait beaucoup, mais elle ne manque pas d'énergie, et elle va aller jusqu'au bout de ses déterminations et de ses choix. Disons aussi qu'elle a été à certains moments aidée par des hommes autour d'elle qui l'ont accompagnée, l'ont soutenue, et par d'autres femmes qui elles aussi l'ont soutenue, notamment une femme qui vient de très loin, qui vient d'Ukraine et qui est arrivée là d'une manière un peu surprenante, un peu bizarre, mais comme bien d'autres sont arrivés chez nous de cette manière-là.
Oui, alors autour d'elle, finalement, il y aura les contres, hein, ceux qui veulent lui faire des misères, c'est ce qu'on peut dire, puis d'autres qui ont compris peut-être que cette femme va leur apporter quelque chose et qui sont dans son camp.
J'aime bien ce que vous dites, qu'ils vont lui apporter quelque chose, oui, parce qu'elle va se nourrir, bien sûr, elle est seule, mais elle n'agit pas seule, puisqu'elle se nourrit aussi de l'énergie de ces gens qui l'entourent. Aussi bien ses disciples de la danse que ses compagnons, que celui qui va devenir son deuxième époux et qui va lui apporter à sa manière toute l'énergie dont elle a besoin pour continuer. Elle est seule, mais avec les autres, qu'elle accompagne et qui l'accompagne.
Et alors, on avait dit la famille s'agrandit, il y a beaucoup d'enfants ou pas ?
Il y aura une fille qui est issue du premier mariage, une fille qui va, on est bien dans cette époque-là, hein, les années 75-80, une fille qui va orienter le domaine agricole vers, toujours en gardant bien sûr l'aspect production, production céréale et autres productions, mais qui va l'orienter aussi vers l'accueil touristique et qui va créer dans ce beau complexe agricole et historique templier une ferme auberge qui va illustrer la volonté de production locale et respectueuse de l'environnement. Donc oui, il y a une fille qui va accompagner sa mère, plus que l'accompagner, qui va la guider vers cette autre forme de présence agricole qui est celle de l'accueil touristique et de la, les économistes diraient, de la ligne économique courte entre le producteur et le consommateur.
Oui, alors bon, elle est en avance sur son temps quand même, hein, parce que alors maintenant c'est devenu un peu un lieu commun, mais à l'époque, penser à faire accueillir des touristes, qu'on va dire, des gens, c'était quand même très nouveau.
C'était le début de cette évolution dans le domaine agricole, c'était la naissance des fermes auberges qui sont nées dans les Vosges, je le rappelle, des fermes pédagogiques. C'était le moment de l'ouverture du monde paysan à son monde environnant, avec l'intention de montrer aux consommateurs de ce temps et de notre temps encore que on peut vivre bien tout en respectant son environnement. Elle se plaît à répéter à ses complices ou collègues paysans, quand les choses se gâtent un peu entre eux, elle leur pose une question simple: est-ce que tu aimerais, toi, qu'on t'exploite? Et la réponse immédiate du paysan qui est en face dit: bah, bien sûr que non, je veux pas qu'on m'exploite. Bah, la terre non plus ne supporte pas qu'on l'exploite. Donc je ne suis pas à la tête d'une exploitation agricole, je suis à la tête d'une ferme, une ferme qui respecte, qui travaille avec la terre et pas contre la terre. Voilà, donc c'est cet esprit qu'elle veut partager avec sa fille et à destination du monde non paysan, du monde des touristes qui viennent chez elle.
Oui, alors quand on parle de ferme auberge, alors on est en plein dedans, hein, surtout quand on parle maintenant des circuits courts. Donc là, ça peut pas être plus court, hein, parce que je présume que dans sa ferme auberge, les gens mangent tous les produits de la ferme.
Évidemment. Évidemment, là, on est dans cette évolution vers le circuit le plus court possible, directement du producteur au consommateur. Les légumes qui sont sur la table de la ferme auberge sont des légumes issus du potager voisin, qui se trouve juste derrière la chapelle templière. Quant aux autres aliments, les aliments carnés notamment, ben, ils viennent aussi de l'élevage de proximité. Un élevage, d'ailleurs, qui se fait dans des conditions de respect du monde animal absolument exceptionnelles, sans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, le transport dans des conditions abominables, d'animaux ou l'élevage intensif, là encore dans des conditions insupportables. Tout ça est hors de son champ de vision, de travail et d'application. Oui, tout ce qui est sur la table de cette ferme auberge est issu directement de la ferme familiale.
Oui, alors maintenant on peut dire que, enfin, nous, je vois chez nous, on fait quand même un petit retour en arrière, hein, au niveau des animaux. Il y a quand même un plus grand respect des animaux qu'à une époque où c'était vraiment la foire d'empoigne, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on constate une belle évolution dans ce monde, mais qui est le résultat de déterminations comme celle de mon héroïne Loan, qui est le résultat de la volonté de changement de quelques convaincus, de quelques organisations professionnelles, de quelques syndicats, souvent minoritaires, qui ont engagé l'agriculture vers des modes de production plus respectueux de l'environnement, qu'il soit végétal ou animal. Oui, bien sûr, on a constaté cette évolution, mais avec parfois encore des combats à mener contre des institutions telles que, entre autres, l'Union européenne.
Oui, alors là, ce serait encore un autre débat, parce que...
Mais qui est un peu effleuré dans ce roman, puisqu'on oui. est dans ce contexte de production paysanne, de vie paysanne, d'engagement au quotidien dans le respect, j'insiste là-dessus, le respect de l'environnement et le respect de la vie.
Alors, cet après-midi, donc, on est avec Gilles Laporte, qui nous parle de son dernier roman, « Le goût des murs sauvages ». Aller aux presses de la cité. Alors finalement, votre roman fait la part belle à deux femmes.
Oui, oui, la part belle à deux femmes, la mère et sa fille, et puis la part belle à quelques hommes aussi, hein. Des hommes qui sont dans leur giron immédiat, des hommes qui leur sont très très proches, et auxquels elle montre que la vie vaut la peine d'être vécue d'une autre manière que celle qu'ils avaient envisagée au départ. La vie avec la perspective purement masculine telle qu'elle est encore conçue à bien des endroits ou à bien dans bien des sociétés, celle-là elle la conteste, et elle invite les hommes qui l'environnent à aller dans cette direction là encore de plus grande bienveillance et de survie par l'amour. Et ouais. Non pas par l'appropriation de l'autre et la domination de l'autre.
Alors quelques-uns apparemment vont les suivre, hein, puisque elle va s'entourer de gens qui ont peut-être compris qu'il y avait une autre agriculture qui existait, qu'il y avait d'autres manières de traiter la terre, parce que c'est ça un petit peu. C'est vrai que la terre, on la bouscule un petit peu, hein, donc là c'est tout à fait différent avec Loan.
C'est tout à fait différent avec elle, et elle va même jusqu'à aller ouvrir le champ de vision d'une de son amie la plus proche, qui travaillait dans un musée, qui avait une vision de l'art très contemporaine avec ses provocations actuelles. Elle va aller jusqu'à l'inviter à voir plus largement le monde de la création, à ce point que son ami va aller ouvrir une galerie en Bretagne dans laquelle elle va présenter des créations artistiques, des peintures d'artistes qui, eux, partagent aussi cette vision du monde. Donc, elle déborde largement le cadre de son activité de paysanne, aussi bien dans le domaine de la danse que dans le domaine de la création artistique et picturale.
Oui, alors c'est
une vision du monde. C'est une vision du monde large qu'elle propose.
Oui, on voit, hein, parce que c'est quand même atypique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est dans le monde agricole, alors je ne sais pas si elle est, elle a une production laitière ou pas. Si c'est que des céréales, mais c'est quand même une vie compliquée. Hein, à la campagne, il faut être là, quoi.
C'est une vie compliquée. Qu'elle assume pleinement dans toutes ses complications grâce à, je le répète parce que ça c'est très important et c'est le moteur de l'histoire que je raconte dans ce roman Le goût des murs sauvages, grâce à la passion, toute l'énergie elle l'appuie dans sa passion, la passion de la danse, la passion du respect de la terre, la passion du respect de la vie, la passion du respect de l'autre, quel que soit l'autre, j'allais presque dire qu'il soit humain, animal, végétal, voire minéral, le respect de l'autre sous toutes ses formes, c'est ça qui lui permet de surmonter toutes les difficultés qui se présentent à elle. C'est une sorte de philosophie de la vie qu'elle nous offre, mais que j'ai constaté sur le terrain qui existe réellement. Cette femme a réellement existé, là encore j'insiste. Elle était tout ce que je raconte, tout ce que je décris dans ce roman et tout ce qui m'a permis de camper ce personnage de Lorraine.
Oui, alors on comprend bien que sans la passion, je pense qu'elle n'y serait pas arrivée. Mais on voit plein d'exemples, quand on est passionné, eh bien on est capable de faire plein de choses.
Mais oui, et on est capable de construire là où d'autres au quotidien tentent de détruire, on est capable de continuer à nourrir l'optimisme là où au contraire l'environnement nous inviterait plutôt au pessimisme et surtout par les temps qui courent.
Alors bon, on va pas, on a parlé pas mal de ce roman quand même. Hein, il faudra aller et le lire, hein, le livre jusqu'au bout pour voir comment ça se termine. Hein. On va pas.
Oui.
C'est normal, c'est comme au cinéma, on va pas dire la fin. Hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Est-ce qu'elles vont toutes réussir? Il faudra lire ce bouquin. Donc, Le goût des murs sauvages par Gilles Laporte, aux presses de la Cité. On a fait à peu près le tour du bouquin sans trop déflorer des choses, quoi.
Je le crois, oui. On a évoqué tous les sujets importants qui sont abordés dans ce roman. On a beaucoup insisté en disant que c'est avant tout une histoire d'amour de l'art, d'amour de l'expression directe, d'amour de la terre, d'amour de la danse, d'amour de la lumière, parce que j'ai voulu que ce personnage soit à l'image de cette femme dont je me suis inspiré, un personnage lumineux et solaire. Oui, j'ai voulu faire en sorte que cet amour de la vie que m'a enseigné cette femme qui a inspiré ce roman, soit partagé le plus largement possible par cette histoire que je raconte.
Oui, mais on sent que vous aussi, cette femme vous a vraiment, comment dirais-je, tapé dans l'œil, hein, c'est peut-être un peu dans le lieu commun, mais vous avez, je pense que pour cette femme, vous avez une véritable passion, puisque c'est une vie qui a été vécue et qui vous a permis de faire ce roman.
Oui, pour elle en particulier, mais pour tout en général, parce que la plupart de mes romans, dont les romans historiques, sont des romans qui font la part belle aux femmes, qui rendent hommage aux femmes. Je ne supporte pas les injustices, quelles qu'elles soient, et surtout la plus vieille du monde, qui est la place qui est faite aux femmes, qui est une place de subalterne, de seconde, de dominée. Ça m'est insupportable, et dans tous mes romans historiques, mes héros sont des héroïnes qui montrent que la femme a d'autres ressources et qu'elle peut devenir non seulement l'incarnation de la volonté de réussite par l'amour, mais aussi les guides vers une certaine forme de lumière et de bienveillance et de philosophie positive de la vie.
Voilà, donc on vous invite à lire ceux qui ne l'ont pas encore lu. Il est sorti quand d'ailleurs? Je ne vous ai même pas demandé.
Il est sorti tout à fait fin août, début septembre, donc il est en place depuis 3 semaines.
Ouais, on est complètement dans le vif du sujet. Donc, Gilles Laporte, Le goût des murs sauvages, au Presse la Cité. Alors, bien sûr, la question traditionnelle de la fin, je sais ce que vous allez me répondre. pardon. Est-ce que vous avez un livre sous le coude, ou une pièce de théâtre, ou de cinéma? Je ne sais pas, parce que vous êtes vraiment très prolifique un peu partout, hein.
Ben, j'ai un autre livre que je viens de terminer, qui est, je ne sais pas pour quel éditeur il sera, parce qu'il n'est pas du tout dans l'esprit de ceux que je publie aux Presses de la Cité, puisque je publie dans des genres différents, du roman contemporain, du roman historique, de la biographie, des nouvelles, des essais. J'ai autant d'éditeurs que de genres pratiqués. Le plus important étant les Presses de la Cité pour le roman historique, qui est vraiment ce à quoi je tiens le plus. Donc j'ai un autre livre sous le coude qui vient d'être terminé, qui va trouver un éditeur, je l'espère, bientôt. Et je suis déjà dans le travail du prochain roman historique pour les Presses de la Cité, qui devra sortir à l'été 2025.
Et alors le prochain, là, vous allez parler de quoi? Vous changez totalement de sujet?
Je n'aime pas beaucoup parler des projets en cours.
Non, mais celui que vous avez terminé. Je parle de celui que vous avez terminé.
Ah, oh, ça c'est tout à fait différent. On est dans un registre qui n'a rien à voir avec celui-là. C'est une sorte de roman initiatique. C'est l'histoire d'un gars qui part à la recherche de la mémoire des Cathares en Italie du Nord et dans le sud de la France, et qui à la faveur de découvertes d'épisodes du catharisme va rencontrer des femmes qui vont lui révéler une à une et très progressivement ce qu'est la vraie nature de la perfection recherchée par les cathares, cette perfection qui confine au féminin sacré. Donc voilà, vous voyez, c'est très très différent, initiatique et philosophique.
Et alors, est-ce que vous êtes toujours dans la création de pièces de théâtre, dans les films, toujours, vous avez abandonné ce côté?
Le théâtre, non, je l'ai abandonné depuis longtemps, mais l'écriture dramatique... j'avais pris quelques distances et il semblerait que un ou deux projets se découvrent actuellement qui me permettraient d'y revenir avec passion.
Eh bien écoutez, j'ai été, et je pense que les auditeurs le seront aussi, très heureux. Là, j'ai rencontré un homme passionné. Je l'ai compris et tout le monde l'a compris. Hein, donc, et vous le verrez dans le roman, Le goût des murs sauvages. Alors, si ma mémoire ne me trahit pas, les Vosges, il y a une ville qui s'appelle Gérardmer, non?
Gérardmer, oui.
Ouais, Gérardmer, on dit, ouais, d'accord.
Non, on prononce à la Vosgienne Gérardmer, parce que le MER qui finit ce nom de ville n'est pas inspiré du marais romain qui signifie l'eau, la mer.
Ah, non, d'accord.
C'est le mais vosgien qui signifie la maison de. C'est la maison de Gérard, étymologiquement. Gérardmer.
Très bien. Eh bien, comme ça, on aura pris autre chose encore aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on était ravis. On attend votre prochain livre, finalement, avec impatience, parce que vous nous avez complètement capté, hein, je pense, par cette histoire. Et je pense que ça va être de même pour les lecteurs. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie beaucoup pour cette belle conversation autour de mon roman Le goût des murs sauvages, et j'espère à un de ces jours. C'est vrai que votre pays et le mien sont très très proches par l'allure géographique et peut-être aussi par la culture.
Hein. Eh oui, voyez un peu, ça se ressemble. Merci beaucoup.
Oui.
Au revoir.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Voilà, avec donc Gilles Laporte, Le goût des murs sauvages. Alors, on a parlé de danseuses. Eh bien, on va écouter Lavillier. Lavillier, bien sûr, pour illustrer un peu ce roman. Enfin, c'est pas tout à fait en rapport, mais c'est quand même une histoire de danseuse, puisque c'est la danseuse du Sud, par Lavillier. Et aujourd'hui, nous recevions Gilles Laporte, Le goût des murs sauvages, aux Presses de la Cité.
Quand on a marre du Big Brother, quand T'en as marre de faire coincer par les flics, quels qu'ils soient, qu'ils soient les flics de la rue ou les flics dans ta tête. T'as envie de trouver quelqu'un libre, profondément seul et profondément sensible. C'est pour ça, 3 minutes de calme. Cette chanson-là, ça s'appelle « La danseuse du Sud ». Je me souviens d'une fille au rire cassé, au passé perdu dans le grand brouillard. Trop d'amour blessé, trop de faux départs, trop de mains glacées. Elle a des souvenirs qui lui appartiendront. Après la première larme, la dernière chanson. La nuit tombe encore, cruelle et tragique. Les néons sanglants, notre désarroi, comme un soleil froid. Tous mes souvenirs lui appartiendront. Après la première larme, la dernière chanson.
Voilà, pour terminer cette émission avec le Stéphanois, comme on l'appelle, Bernard Lavilliers, la danseuse du Sud. Et oui, dans ce roman, Gilles Laporte, Le goût des murs sauvages, on parle d'une danseuse et d'une agricultrice en même temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.
It's back in town. Look at you, Louis Miller. Disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac, he'd spend like a sailor. Did